Bonsoir. Vous écoutez D'assonances en dissonances, une émission consacrée à la poésie contemporaine réalisée par Béatrice Maché. Et ce soir, je vous offre une deuxième partie d'émission avec le poète Laurent Grisel. Laurent Grisel, bonsoir. Nous nous sommes entretenus le mois dernier et nous allons continuer à nous pencher sur vos livres. J'aimerais aborder un livre qui me tient particulièrement à cœur et qui a pour titre « Un hymne à la paix, 16 fois », qui est paru aux éditions publi.net. Ce livre est basé sur le chiffre 4, et 4 fois 4 font 16, bien sûr, comme indiqué dans le titre. On entend parler 4 voix, 2 voix de femmes, femmes et justice, 2 voix d'hommes, hommes et bourreaux, et je voudrais lire 2 petits passages avec la voix de l'homme pour commencer et ces petits passages pour donner une sorte d'introduction à ce livre. Il y a des fêtes générales. On ne fête pas d'avoir gagné. Personne n'a gagné. Perdu. Nous avons tous perdu. Tout le monde a perdu. Il n'y a pas de victoire. On fête pas de victoire. On ne fête pas d'avoir été vainqueur. On fête tous vaincus. On fête. Enfin, il n'y aura plus de vainqueurs. Jamais. Donc ça, c'était le premier passage. Et puis, la voie de la justice. Il faut remettre ensemble ce qui a été séparé. Le bourreau en face des faits. Les faits en face des faits. Les mots de leur sens changeant. L'événement de sa suite d'actes. Et puis la femme. Personne ne doit oublier. En ce sens, il ne doit pas y avoir de pardon. Ne te fais pas oublier, bourreau. Garde-les, tes lunettes noires partant gris, qu'on te regarde. La lecture que je fais de ce livre, c'est que ces personnages y renvoient à des sortes de types universels, archétypes. Ils n'ont pas de nom propre. Ce sont des sortes de sans-noms. Mais ils indiquent surtout que l'histoire se répète indéfiniment sans que l'espèce humaine ne semble avoir rien appris des horreurs du passé et du présent. Le bourreau se présentera toujours comme le simple exécuteur d'ordre. La justice veut voir et comprendre dans un enchaînement et un processus. Et puis l'homme et la femme, eux par contre, apparaissent comme ceux qui évoluent dans ce cadre immuable. Ils se font une vie ensemble et en partage. Loin des démonstrations de violence et loin des rigidités de la loi. Et puis ils ont une forme de subjectivité que justice ou bourreau semblent dépourvus. En quelque sorte, ils affirment qu'on peut à ce niveau se passer de loi. Est-ce bien là le message que vous vouliez délivrer, Laurent Grisel ?
En fait, la loi et la voie de justice jouent un rôle là-dedans spécial qui est non pas d'établir la paix, mais d'y contribuer. La formule usuelle est très profonde et très juste, c'est qu'il n'y a pas de paix sans justice. La question, c'est quel genre de justice on établit. Ce mot justice, dans le poème, il est entendu dans toutes sortes de sens différents. Selon les confrontations entre ces différentes voies, il reçoit une acception ou une autre. La voie de justice, elle ne peut contribuer qu'à condition d'accepter qu'elle a un rôle limité. Elle ne contribue à l'apaisement que dans la mesure où on comprend qu'elle a un rôle qui est seulement limité. Et donc cette limite indique qu'il y a encore d'autres possibilités, d'autres choses à faire, par défaut. 16 fois, en fait, dans ce poème, c'est une des difficultés, c'est que 16 fois, on va de la guerre à la paix. Et dans chacun des 16 épisodes, à un moment donné, il y a un renversement, il y a un retournement. On passe de la tension, de la confrontation, à tout d'un coup, ça se dessert, il y a des possibilités qui sont offertes, et comme chacune des séquences est très courte, il faut vite la saisir. Chaque séquence est construite sur un versement, sur une surprise, sur quelque chose d'inattendu. Ce qui, évidemment, devrait laisser beaucoup de travail à faire au lecteur. Il a du boulot. La répétition veut dire ça, c'est-à-dire qu'il faut toujours recommencer. Dans le toujours, il y a toujours aussi une possibilité de paix qu'on attrape ou qu'on n'attrape pas. Et la loi, là-dedans, la voie de justice, son rôle limité, c'est quoi? c'est d'établir des faits, c'est-à-dire établir une base, quelque chose à quoi on ne peut pas échapper, qui oblige à avoir le courage de faire face à ce qui a eu lieu et à ce qui doit être fait. Elle n'est pas la voie du courage toute seule ou elle-même, c'est un des éléments nécessaires à son expression, à son déploiement. Dans sa voix, dans sa tenue de voix, dans sa tonalité, dans sa façon de s'adresser, c'est une voix qui parle pas fort. Souvent dans les séquences, elle parle pour elle-même. Souvent dans les séquences, chacune des voix parle pour elle-même. Et puis à un moment donné, elles se joignent, elles se répondent, elles s'entendent. Oui, c'est un texte qui est exigeant pour la mise en scène, mais qui est très propice aux relectures et re-relectures.
Et dans les interrogations ou les questions que ça peut susciter, cette histoire de justice, il y a différents moyens de la comprendre. Et dans certaines cultures, la justice, elle fonctionne pas avec des lois, elle fonctionne avec des formes de compensation et de négociation.
C'est très juste. Là, par exemple, dans cet hymne à la paix, cette fois, c'est pas une question de punition. L'intrigue est très largement suspendue à l'accès à une vérité, et une vérité qui soit commune, qui soit reconnue par tous. Et ça, l'intérêt des faits, c'est qu'à un moment donné, quand ils sont bien établis, ils peuvent être reconnus par tous, qui que ce soit. Ce qu'on attend du bourreau, sa punition, si je puis dire, c'est qu'il passe aux aveux, c'est qu'il raconte vraiment, qu'il dise tout. Et donc, dans une des toutes dernières séquences, parce qu'il y a une progression, il dit à un moment donné... Donc, dans le 16e, la 16e séquence, donc le dernier quatuor, voix de femme pose la situation, le ciel est sans avion, l'air est sans bombe, sans ébranlement, on se lave, on s'essuie, poussière partie, on voit clair à nouveau. Donc ça, c'est la situation, c'est juste après la guerre, c'est le moment où tout d'un coup les armes se sont tues, et alors qu'auparavant, on était dans un temps extrêmement court, on savait pas si en traversant la rue, on serait toujours vivant, donc on vit à la seconde près, et puis tout d'un coup, l'espace temporel s'élargit. Et c'est donc dans cette explosion, cette brusque expansion de l'espace-temps, que se déploient des possibilités. Voie de justice, j'abrège cette séquence. On pose les faits en premier. On lie le crime oublié au bien commun oublié. On relie ce qui est lié. Et je continue. Voie de femme, voie de justice. Voie de justice, rien n'efface ce qui a eu lieu. Il n'y a pas de pardon. On peut seulement, à chaque présent, faire autrement que ce qui a été fait et qui reste. Donc ça, c'est le rôle du présent. Chaque présent, tout est rejoué. Voix d'homme, il faut désobéir. Voix de bourreau, tout d'un coup, il dit « Voici ce qui a été, voici ce qui continue. » C'est un seul vers. Mais le temps qu'il raconte tout ça, ça va prendre des jours et des jours et des jours. Mais tout tient en un seul vers. Voix de femme, nous sommes sensibles, rien n'est à nous, etc. etc. Et donc, dans cette séquence-là, il y a toujours un moment de renversement où brusquement on passe à une forme de paix, et là, en l'occurrence, c'est Voix de bourreau qui dit « Voici ce qui a été, voici ce qui continue. » Il ne se contente pas seul d'être passé.
Et le bourreau, dans quelle mesure il pourrait savoir ce qui a été ?
Le bourreau, il a fait des choses, donc il peut quand même raconter ce qu'il a fait déjà, pour commencer. Et puis, il n'est pas ignorant, il connaît forcément les maillons en dessous et ceux qui sont au-dessus. Il ne faut pas qu'il nous raconte de blagues. D'accord ? Tout ça prend énormément de temps. Et donc, à la fin du quatuor, il y a une séquence où il n'y a plus de virgule, il n'y a plus de points. Les voix se succèdent dans l'ordre, voix d'homme, voix de bourreau, voix de justice, voix de femme. Et voix de femme, elle dit « Et avec les petits, nous y allons, jardiniers, explorateurs, avec résolution, avec douceur, attentifs, précis, inquiets, ici et loin, dans l'univers mêlé, tournant sur lui-même sans fin. »
Alors, ce que les auditeurs ne voient pas, c'est la manière dont vous avez de jouer un petit peu au chef d'orchestre avec votre main pendant que vous lisez. Est-ce que c'est quelque chose qui vous aide à scander, à trouver un rythme, à placer la voix?
C'est des gestes involontaires, hein. Ça appartient à la mélodie du verbe et du corps. C'est hors contrôle.
On peut peut-être vous entendre lire un autre extrait?
Oui. Donc c'est la neuvième séquence. C'est un des six duos possibles. Voix de femme, voix de justice. Voix de femme. Nous avons faim et soif de justice. Voix de justice. Combien de voix dans votre voix? Quel vivant et quel mort? Voix de femme. Nous voulons savoir qui les a vendus. Qui a trahi? Pour combien et pourquoi? Qui? Voix de justice. Il nous faut des preuves, des documents. Femme, tout a brûlé. Nos cœurs sont brûlés. Nos maisons sont brûlées. Ils ont mis le feu, eux. Justice. Des témoins, il nous faut. Femme, les témoins, eux aussi, ils les ont supprimés. Mis au feu. Ils sont entrés. Ils ont mis les papiers, les mémoires, par terre. Ils ont défait l'administration. Ils ont détruit les archives. Fendre les têtes ne suffisait pas. Il fallait entièrement détruire ce que les esprits ont laissé en pile, en rangée, en tas, en casier, en dossier. Femme, justice. Quelle justice? Femme, la justice est peu dans le juge. Le juge ne répondra pas à notre soif de justice. Justice. Alors je peux aider. Je peux donner des exemples de fouilles dans les faits, d'enchaînement des personnes aux faits, de preuves de l'intention de commettre les faits, par organisation, concertation, prévision, planification, contrôle, amélioration continue. Je peux travailler au détail des raisons. Je peux montrer comment écarter les prétextes, les considérations dilatoires hors sujet. Je peux donner des exemples de confrontation, de révélation, par rapprochement de ce que l'on a tenu, éloigné sciemment. Des synthèses brutales, je ferai, qui en finissent une fois pour toutes avec le bavardage des bourreaux et leur mutisme. Femme, alors on pourra aimer. Alors on pourra faire confiance à quelques mots qui ne seront trop grands, n'assommeront pas. Qui ne seront trop petits, ne déniront pas. Justice. Lier le crime oublié au bien commun oublié. Femme, alors on pourra lier maintenant et demain. Justice. Faire l'expérience commune de ce qui serait exact, sans malentendu, sans exagération. Femme, de ce qui serait juste et éprouvé tel par tous. Ensemble, communément, justice, peut-être l'apaisement, femme, une paix.
Merci beaucoup, Laurent Grisel. Il y aurait encore plein de choses à dire sur ce livre, mais il faut avancer. Donc, un autre livre que j'aimerais évoquer, et là, c'est même plus un livre, c'est trois tomes. C'est votre journal de la crise, paru chez Publi.net. Une crise, donc, comme je le disais, qui se décline en trois tomes et de trois façons. Crise financière, écologique et géopolitique. Comme pour tout ce que vous avez écrit, ce journal est très documenté. Il y est question des manipulations médiatiques, des banqueroutes, de la cruauté du système, de la spéculation, de la possible élection d'un président français d'extrême droite, des luttes et des désespoirs, aussi bien ouvriers que paysans, mais aussi un aperçu et des notes prises lors d'un voyage au Japon, ou encore des réflexions sur les livres en projet d'écriture. Est-ce que cette écriture, comme au long cours et au jour le jour, vous est nécessaire?
Au départ, c'était seulement nécessaire. Fin 2005, début 2006, on était à la fin du règne de Chirac. Et vous vous souvenez peut-être, ça partait dans tous les sens. La société était en ébullition. Il y avait notamment beaucoup de pétitions. Une pétition, c'est intéressant, c'est une corporation qui fait appel à tout le monde, pas seulement à sa propre profession. J'étais convaincu qu'il y avait quelque chose qui se passait sans savoir quoi. Alors, une façon de faire face à l'avalanche de nouvelles et d'angoisses, c'est de prendre des notes. En tout cas, c'est comme ça que j'ai essayer de faire face pour ne pas se laisser submerger. J'ai commencé une enquête, je me suis intéressé aux faits. Mon intuition, c'était qu'on était en train de changer le monde. Et c'est plusieurs mois après avoir commencé de prendre des notes, je me suis rendu compte que c'était un bouquin que j'étais en train d'écrire. Donc il y a une nécessité, vitale, personnelle, mais je pense que encore aujourd'hui, près d'une vingtaine d'années plus tard, la configuration mentale, de santé mentale pour tout un chacun est la même, voire pire. Ça s'est accéléré en vitesse et en violence, en hauteur évidente des enjeux. Donc c'était une nécessité pour moi et peut l'être aussi pour la lectrice, pour les lecteurs qui va parcourir ça. Et au fur et à mesure que je comprenais, par exemple, il y a des questions d'économie financière, les fameux produits dérivés qui consistent à vendre une dette et qu'elles soient encore vendues et encore vendues, qu'elles soient consolidées, comme ils disent, avec d'autres dettes et ainsi de suite. C'est quelque chose que j'ai découvert et que le lecteur va découvrir au fur et à mesure, en même temps que moi. Donc c'est ça l'élément de suspense, de dramaturgie, de retournement de situation. En effet, il y a plusieurs dimensions. Il y a une dimension philosophique aussi. Il y a une lutte tout le temps sur les mots, pour nommer les choses. Donc, le terme technique, on parle d'ontologie, mais il dit bien ce que ça veut dire. Comment, quoi nomme-t-on et comment? Quel rapport entre les mots et les choses? Et là, c'est l'objet de batailles intenses. À un moment donné, il y a un conseiller du président des États-Unis qui dit « Mais maintenant, c'est nous qui créons la réalité. » Et donc là, c'est typiquement ce qui sera déployé de manière industrielle par la nouvelle réaction états-unienne dont Trump est le grand héros. Mais enfin, maintenant, il a des chevaliers servants à foison. Moi, c'était simplement une découverte, mais maintenant, oui, c'était très prémonitoire.
Alors, dans ce tome « Journal de la crise » de 2006, 2007, 2008, d'avant et d'après, le titre des chapitres sonne presque comme des gros titres de journaux, mais parfois comme des conclusions ou des « morales » entre guillemets d'une histoire sanglante. Alors, par exemple, « Manuel » pour mener une traque des sans-papiers. Ou encore, crime de guerre routinier. Ou encore, cultiver l'ignorance. Est-ce que vous prenez un soin particulier à ces titres?
À cultiver l'ignorance, quand même, c'était bien trouvé. Hein. Franchement, ils viennent juste de supprimer le ministère de l'Éducation, là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique. Hein. Et donc, les opérations sont en cours, ici aussi, en France et ailleurs. J'ai pris un soin particulier au titre de chapitre. Un chapitre, c'est une semaine, en fait. C'est une unité de temps. Hein. Et à chaque fois, le titre du chapitre est une des phrases contenues dans le chapitre. Donc, c'est une façon d'unifier le chapitre. Mais c'est aussi une tromperie. Parce qu'en fait, un chapitre n'a pas que ce seul contenu ou ce seul enjeu. Il en a d'autres. Donc là, c'est du boulot pour les lecteurs. Oui, j'y tiens beaucoup. Et alors, ce que ça fait aussi, c'est que ces formules, ces éléments, ils sont donnés en sommaire au début du volume. Ils peuvent être lus dans la continuité. Et ces titres de chapitre forment à leur tour un texte en tant que tel. Donc, il y a une espèce de poème introductif à chacun de ces volumes de prose.
Est-ce que vous en liriez quelques passages?
Je vais lire une petite séquence qui occupe simplement le vendredi 17 novembre 2006. Hier, mort de Milton Friedman, l'économiste doctrinaire fondateur de l'école de Chicago qui a envoyé ses Chicago Boys au Chili d'avant Pinochet pour préparer l'application des doctrines monétaristes sous Pinochet. Milton Friedman, l'homme dont la pensée est au fondement du consensus de Washington. On ne lui tresse que des lauriers. Victoire totale de la fiction libérale dans les médias autorisés. Eux-mêmes, de ce fait, immenses machines à produire conjointement du silence et de la fiction. Donc c'est l'intérêt de la forme journal, c'est de sentir le vent du temps passé. J'allais dire le vent des boulets. Et là maintenant, une autre séquence, on est un peu plus loin, mardi 28 novembre 2006, qui donne son titre au chapitre, donc le titre « Bombardement de mots ». Revue de presse du Los Angeles Times du 19 novembre, une tribune de Joshua Moravchik. Titre « Bomb Iran »,« Bombarder l'Iran ». Première phrase, « We must bomb Iran ». Nous devons bombarder l'Iran. Ce monsieur est resident scholar at the American Enterprise Institute, il faut, dit le journal, il faut compléter le nom, AEI, for Public Policy Research, l'institut de l'entreprise américaine pour la recherche sur les politiques publiques. Il a fourni, cet institut, nombre d'intellectuels néoconservateurs à l'administration Bush. Parmi les membres de cet institut, et là je donne une liste, et chacun d'entre eux se sort très mal de ma très brève présentation. Le soubassement de cet institut d'influence, moins d'État, plus de liberté pour les entreprises, le marché sait tout et a toujours raison, d'où il s'ensuit que le coup d'État de Pinochet était juste, etc. En fait, un producteur d'idées et de programmes d'extrême droite. Je suis Moravchik, l'auteur de la tribune, entretenu par cet organisme. Nous devons bombarder l'Iran. Sa première volée d'arguments, les concessions n'empêchent pas l'Iran de développer son programme nucléaire. Oui. Deuxième volée. L'Iran est un État qui nourrit le terrorisme. Troisième volée. Seule la force peut faire reculer l'Iran. Tiens, ce stratège suppose cette force un succès et sans réaction ni conséquence. Seules les circonstances favorables à sa thèse sont envisagées. Bien. Enfin, le mode opératoire. Non, pas de guerre terrestre si dangereuse, mais aérienne, contre les installations nucléaires. On connaît déjà les cibles, il y en a 1500. Cela ne suffirait peut-être pas à détruire le programme, ajoute-t-il, mais au moins, on leur fera perdre du temps, et s'il faut recommencer, on recommencera. Dans la même revue de presse, réponse, le 27 novembre, hier, de Karen Kwiatkowski, lieutenant-colonel de l'US Air Force, justement l'arme préférée des néoconservateurs, leur rêve de foudre tombée du ciel, fureur divine, eux, Jupiter, lançant des foudres. Karen Kwiatkowski s'étonne qu'un tel tissu d'ânerie soit publié dans un journal aussi honorable, réputé, crédible que le Los Angeles Times. Elle juge effrayante, frightening, cette intrusion de la brutalité dans un monde de réflexion et de pragmatisme. Elle écrit « Nos attirances sordides pour la rage et le goût du sang sont nourries et entretenues par les prescriptions des néoconservateurs en matière de politique étrangère. Le postulat est que pays islamiques et bombes atomiques sont incompatibles. » Elle emploie des mots qui suggèrent la vénalité de Joshua Moravchik. Des gars comme ça ne gagnent pas leur pain à chercher des solutions positives pour relever les défis de la sécurité de notre pays. Ce qui rapporte, c'est de discuter qui, d'Israël, de l'Iran, dominera la région. Quel est le rôle d'un pantin comme Moravchik? Donner les mots qui seront repris. Publier « Bombarder l'Iran » dans un journal respecté légitime ces mots. Légitime la violence, quelle que soit la qualité des arguments. Et Karen Kwiatkowski insiste, ces arguments sont « illegitimate, illogical and empty »,« illégitime, illogique, vide ». Elle précise « bombardement de mots ». Et ce, dans certaines d'autres, dans les médias clés, dont le but est de préparer le terrain psychologique et linguistique pour de futurs bombardements dans le monde réel des humains caricaturés.
Voilà qui est dit. Alors, chers auditeurs, n'allez pas vous mettre aux abris, continuez d'écouter. C'est un bombardement de mots, mais c'est pour vous faire du bien. Quelque chose qui n'a pas encore été dit dans tout ce qui a été dit et qui m'intrigue, c'est votre rôle au sein du club de Mediapart. Alors, comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, expliquer? Et puis, pourquoi Mediapart?
Ah, Mediapart, c'est un endroit intéressant. C'est-à-dire que là, on parlait tout à l'heure de recherche de la vérité, d'une vérité qui serait commune et qui serait fondée sur des faits. Donc là, on retrouve nos thèmes. Donc l'endroit n'est pas mauvais. Quand j'écrivais ce journal, je crois que c'est début 2008, je disais, bon, de toute façon, ça va craquer de manière encore plus évidente que l'été 2007. Et ce sera aux environs du 15 octobre. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est à peu près la date. Et je me disais, bon, bah, là, j'arrêterai, parce que c'est quand même un travail harassant, harassant de regarder les choses en face. En même temps, j'écrivais un hymne à la paix. D'ailleurs, j'ai inclus quelques-unes de mes notes de journal d'écriture dans le journal de la crise. Ce qui donne des clés de lecture pour les lecteurs ou les acteurs de l'hymne à la paix. Donc, pour moi, ça devait être terminé à un moment donné, il fallait que ce soit terminé. Et malheureusement, l'actualité étant ce qu'elle est, je ne peux pas m'empêcher de temps en temps de prendre des notes sur ce qui se passe. Alors, sur ce blog que j'ai créé, bon, pour l'instant, il y a quelques pages, et je ne pense pas que ça amène très loin en termes de volume. Je prends des notes sur l'actualité, mais qui sont en rapport avec les deux autres volumes de cette série de cinq volumes, hein, genre la crise 2006, 7, 8, d'avant et d'après. Donc le titre du blog, bah, c'est « Avant, après ». Un peu comme dans les publicités pour les laveries, où vous voyez votre linge avant et après. Voilà. Alors avant, parce que quand j'écrivais ce journal, je prenais des notes aussi sur des choses qui sont produites avant 2006. Mais je les ai mises de côté, ça fait de nouveau, j'avais affaire à un volume de notes absolument invraisemblable. Donc je m'en suis débarrassé dans mon arborescence de fichiers, il y a un répertoire qui s'appelle « Avant ». Et de même, on avait des discussions, ou même des propres réflexions, ou des lectures sur les futurs possibles. Alors pareil, j'ai créé un répertoire après. L'idée pour « Avant », c'est d'augmenter notre répertoire de dates, c'est-à-dire... Dans les luttes pour l'émancipation, on a des références dans le passé. On a 1789, 93, on a 1871, la Commune de Paris, etc. Notre capacité d'imagination du futur est amputée du trop petit nombre de dates du passé que nous avons. Si on peut travailler sur des dates, partager des dates, eh bien à ce moment-là, on sera mieux armé pour imaginer le futur. Que des dates négatives ou positives, hein, des fêtes, des défaites ou des victoires, on a besoin de ça. Donc avant, ce sera une espèce de proposition de recherche, de discussion, écrite par un historien amateur, adressée aux historiens professionnels, en disant « Mais là, on devrait quand même regarder ça. On devrait regarder ça. » Ils accepteront ou pas la proposition, mais c'est une proposition, une offre qui est faite aux romanciers, à n'importe quel chercheur dans un sens le plus large possible de ce mot. Et pour après, ça sera mes propres expériences, mes propres propositions dans les débats sur, un, ce à quoi nous aspirons, et deux, comment y parvenir. Donc il y aura plusieurs chapitres sur comment lutter, par exemple. Voilà. Le blog de Mediapart, c'est quelques-unes des notes, quelques esquisses de ce travail que je vais noter tout de suite et même mettre tout de suite en débat avant que les deux livres, ces deux volumes soient composés.
Vous avez un jour déclaré « Il y a un vide fou à combler entre ce qui se dit publiquement de nos vies et ce qu'on en vit. » Bon, ça, je pense que tout le monde fait cette expérience. Pour autant qu'on ait envie d'écrire, bien sûr, mais pensez-vous donc que l'acte d'écrire peut combler ce vide, ou se révèle tout au moins une tentative pour combler le vide ?
Une tentative, c'est-à-dire qu'il y a un gouffre qui est créé, et ce gouffre crée un besoin, un désir de le combler, de bâtir des ponts pour aller d'une rive à une autre. Finalement, un peu comme dans ce passage du journal que je viens d'écrire, là, de novembre 2006, l'œuvre des réactionnaires, des oppresseurs, c'est de créer ce gouffre à tout moment. En effet, des batailles, on prépare le terrain linguistique à l'agression. J'écris quelque part que le mépris prépare le crime et l'accompagne. D'abord, le fait de saisir, de ressentir ce gouffre entre ce qui est dit de nos vies et ce que nous en vivons, c'est existentiel, c'est une lutte pour la possibilité même d'exister. Alors, il y a des poètes, des prosateurs, des écrivains de science-fiction, que sais-je, des dramaturges. Ils rappellent, ils font vivre la possibilité de vivre, justement, d'une certaine adéquation entre les mots et les choses. C'est ce que peuvent faire aussi des philosophes, des fois. Il y a des philosophes qui créent des vides et des gouffres entre ce qu'ils disent de nos vies et ce que nous en vivons. Ça ne veut pas dire que je ne voudrais pas qu'il y ait créé de malentendus. Ce besoin de trouver les mots et les raisons peut aboutir à la nécessité de travail très, très approfondi et d'un certain degré de généralité. Et par conséquent, d'un certain niveau d'abstraction. Voilà le défi, c'est celui de joindre l'abstraction nécessaire pour comprendre la généralité des mécanismes. Oui, les poètes peuvent faire ça, mais je pense aussi, de nouveau, les écrivains de toutes sortes et de tout poil.
Il y a peu de temps, j'étais en Espagne. Et à la fin d'une conférence donnée par un professeur de philosophie, mon voisin, qui savait que j'écrivais de la poésie, m'a soufflé. Mais que font les philosophes aujourd'hui ? Il me semble que les poètes savent mieux alerter, ils savent mieux résister. Sans essayer de généraliser ou d'essentialiser ni les philosophes ni les poètes, diriez-vous néanmoins que les poètes savent mieux résister ?
Il ne faut pas généraliser. Hein. Parce que les poètes, si on parle des poètes en général, ils savent bien endormir aussi. Hein. Ils savent euphémiser, ils savent détourner le regard. Donc, c'est pas parce qu'on est poète que on est du côté du dévoilement et de l'appel au combat, du rappel des raisons d'exister, de coexister. Donc, oui, il y en a des qui. Il y en a. C'est pour ça qu'il faut beaucoup lire et publier des anthologies.
La constante de l'émission est que l'invité choisisse une musique, une chanson, pour la partager avec les auditeurs, que les auditeurs fassent une découverte, ou pas, enfin bon. Quelque chose donc qui l'accompagne quand il écrit, par exemple, quelque chose qu'il aime, qui l'inspire, qui l'a frappé, etc. Quel est donc votre choix et pourquoi, Laurent Grisel ?
Alors ce que je propose, c'est les variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach. Pour plusieurs raisons. Bon, d'abord, c'est une musique d'un dynamisme, d'une joie absolument extraordinaire, communicative. On n'écrit pas sans une forme de joie, même si cette forme, par exemple, c'est de la rage. Le plaisir de la polémique, ou la lutte pour l'adéquation des mots. Mais ça ne se fait pas sans énergie. Il y a une joie intrinsèque au déploiement, à l'exercice de l'énergie. Donc pour moi, c'est déjà ça. Ensuite, les variations, c'est très très inspirant. C'était une de mes obsessions depuis gamin, depuis ma jeunesse, d'écouter de la musique et de me rendre compte qu'il pouvait y avoir un thème et des variations, que ça pouvait être repris, recommencé de façon différente. Et ça a été un de mes idéaux d'écriture, donc depuis que je suis gamin, je sais pas, depuis que j'ai 13, 14 ans ou 10 ans, je sais pas très bien, je peux pas donner la date, mais un jour, j'écrirai des poèmes sous la forme thème et variation. Et je suis parvenu au bout de beaucoup, 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 beaucoup d'années, parce que c'est pas si évident que ça. Par exemple, l'hymne à la paix, il y a des thèmes, et cette fois, on reprend, on recommence. J'aurais pas eu l'audace de faire, d'employer une forme répétitive comme celle-là, si j'avais pas écouté la musique, je m'étais pas réjoui à l'écoute de musique. Jean-Sébastien Bach, mais aussi Steve Reich, par exemple, pour la musique répétitive. Et donc, eux, ils fassent ça, bah, c'était possible, quoi. Voilà. Donc, c'est inspirant. Je souhaite aux auditrices, aux auditeurs, cette joie et cette inspiration.
Donc, nous allons écouter les variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach, enfin, un extrait, bien sûr, interprété par Maria Tippo. Et Maria Tippo, c'est une pianiste classique italienne née le 23 décembre 1931 et qui s'est éteinte à Florence le 10 février 2025. Donc c'est pas si loin que ça. Donc ça lui rend hommage aussi. Ces enregistrements des variations Goldberg lui ont valu, donc à Maria Tippo, un diapason d'or. Voilà pour la petite histoire. Alors, écoutons Variation Goldberg, Jean-Sébastien Bach, le choix musical de mon invité Laurent Grisel. Vous venez d'entendre les variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach, exactement BWV 988 Aria, interprétée au clavier par Maria Tipo. Et c'était le choix de mon invité Laurent Grisel, avec qui je m'entretiens ce soir. On a parlé tout à l'heure de Mediapart, et Edwy Plenel a passé la main, il n'est plus à la tête exactement, mais il travaille toujours pour Mediapart. Je ne pense pas qu'il puisse s'arrêter un jour de faire ce genre d'enquête ou d'entretien. Et il a, dans sa nouvelle série d'émissions qui s'appelle L'Échappée, interviewé Patrick Chamoiseau. Et Patrick Chamoiseau vient de sortir un livre dont le titre est « Que peut la littérature quand elle ne peut ?» Donc Patrick Chamoiseau, dans ce livre, dit l'indigence que créent les dominations, et que ces dominations sont le moyen de faire disparaître la beauté. Alors, moi je me pose la question, et je vous la pose, comment répondriez-vous à cette question, Laurent Grisel, que peut la littérature quand elle ne peut ?
D'abord, pour commencer, c'est très vrai, il y a une relation directe entre la domination et la laideur. La domination, c'est une lutte contre les possibles, contre les possibilités. Réduire l'existant à la domination proprement dite. Le rêve de sa perpétuation. C'est pas pour rien que un des éléments caractéristique de l'esthétique de la domination, c'est le kitsch. Donc, tout à fait d'accord avec ce que dit Patrick Chamoiseau. Ensuite, qu'est-ce qu'elle peut ? Qu'est-ce qu'elle peut quand elle le peut ? C'est réouvrir le champ des possibles, en faisant exister des êtres vivants, en faisant exister les minéraux et les relations que nous avons avec eux, en faisant exister l'existence, l'imagination est ouverte, la vie revit. Mais c'est ça, ce qu'elle peut. Ce en quoi elle est émancipatrice.
Eh bien, merci beaucoup. Je reviens un petit peu aussi sur votre biographie, dans laquelle on peut lire que vous êtes membre du comité de rédaction de la revue en ligne Remue.net, fondée par François Bon en 2000. Et parmi ses membres, on peut aussi citer des poètes comme Françoise Ascal, Jean-Marie Barnaud, Sorène Berlotier, Éric Pessan, Marie de Quatre-Barbes, le regretté Philippe Ramy, Fabienne Sviatli, Lucie Taïeb, Emmanuel Jawad, etc. Que du beau monde. En quoi consiste ce rôle au comité de rédaction de Remue.net? Parce que c'est pas forcément clair pour les auditeurs, en fait, un comité de rédaction.
En fait, Remue.net, ça fonctionne comme une revue. Bon, on connaît déjà les revues papier. Souvent, on publie la liste des membres du comité de rédaction. Donc, ce sont ceux qui pilotent les publications, qui acceptent ou refusent des papiers, ou qui en recherchent, qui en demandent, qui disent, bah, tiens, ce serait intéressant qu'on bosse sur ce thème ou sur cet autre, et ainsi de suite. Donc, c'est en fait un comité de rédaction normal, habituel, dans la tradition des revues littéraires qui existent au moins depuis la fin du 19e, depuis le Mercure de France. Il y a la Nouvelle Revue Française pour ce qui est des revues bien connues, mais même les revues de poésie toutes plus modestes les unes que les autres. Il y a des comités de rédaction où il y a un rédac-chef, où il y a un fondateur qui lui tient toutes les rênes, ou une fondatrice qui dirige tout toute seule. Mais la fonction est toujours la même, c'est de donner une impulsion, de demander des textes, de trier parmi ceux qui sont reçus. Ce qui est intéressant dans les revues, c'est que c'est des bancs d'essais. C'est-à-dire que la règle habituelle de fonctionnement, c'est de publier des écrivains qui sont déjà un peu reconnus et de publier des textes de gens qui sont pas encore reconnus, qui sont pas reconnus. Le risque de publication est moins élevé que pour un recueil ou un volume. Et ce risque moins élevé permet d'être plus audacieux. Remue.net joue ce rôle-là. On publie pas mal de textes reçus par la poste, selon l'expression consacrée. Et on en refuse beaucoup, évidemment. Mais c'est ce qui fait marcher la revue. C'est un lieu de découverte. Et aussi, il y a des dossiers d'écrivains importants. Il y avait, bon, il est disparu aujourd'hui, il y avait Dominique Ducidour qui a publié, en fait, pratiquement, en quelque sorte, son journal d'écriture, ses brouillons de son SAD romancier. Et c'est prodigieux. Je ne sais pas combien de centaines de pages ça fait, mais c'est un feuilleton absolument passionnant sur l'époque de Sade, qui est donc le passage quand même d'un régime aristocratique à un régime républicain. Sade, qui était donc un républicain, qui était secrétaire de la section des Piques, et qui écrit un petit pamphlet « Républicain encore en effort ». Et donc, elle le prend, Sade, comme un romancier. C'est-à-dire que Sade, il y a d'innombrables gloses, et c'est même devenu un mot de la langue courante, sadien, sadique, que sais-je encore. Il dit, ne le prenez pas littéralement, c'est de la fiction. C'est pas vrai, vous savez, c'est de la fiction. Qu'est-ce que c'est que de la fiction? Et donc, c'est toute sa réflexion sur qu'est-ce que c'est que la fiction. Sur Remue.net, vous trouverez un dossier justement sur la fiction, le romanesque. Qu'est-ce que c'est que la fiction? Elle en discute, mais aussi une romancière comme Cécile Vachebrod et d'autres. Il y a un dossier aussi sur les bibliothèques. Il y a aussi un dossier sur un écrivain comme Pierre Guillotat. Il y a à la fois des repères dans notre paysage d'invention littéraire et puis des publications d'actualité d'auteurs français ou étrangers.
Pour l'anecdote, et pour dire et redire que le poète n'est pas cet être éthéré absenté du monde pour mieux fréquenter les muses, et qu'il est citoyen à part entière, et donc votre exercice de la citoyenneté, Laurent Grisel, bon, on l'entend, mais dans votre œuvre, on trouve ceci, pratiquer l'éco-conception, aux éditions Ligne Directrice, paru le 5 décembre 2001. Est-ce que pour vous, ça fait partie, effectivement, non seulement de la liste bibliographique, mais aussi, à part entière, de l'œuvre?
Oui, c'est paru aux éditions de l'AFNOR, donc l'Association française de normalisation. L'AFNOR a publié, il y a un bon bout de temps, une norme française sur l'éco-conception. C'est l'éco-conception, c'est concevoir des produits et des services de manière telle qu'ils nuisent le moins possible à l'environnement. Le moins possible et de façon significative et démontrable. Voilà, c'est grosso modo les principales exigences. À l'époque, dans ces années 90, je travaillais dans une société qui s'appelait Ecobilan, qui était pionnière à l'époque, ça n'existait pas encore de façon large, loin de là, sur ce qu'on appelait les éco-bilans, c'est-à-dire des bilans matière et énergie aux frontières d'un système, donc en entrée et en sortie. Une espèce de comptabilité, mais non pas d'argent, mais de flux de matière et d'énergie. Donc quelque chose qui peut se compter, qui est objectival, qui donne pas la totalité du tableau, mais qui quand même est assez complet, parce que ça part du berceau et ça va jusqu'à la tombe. Et donc, je travaillais dans cette entreprise, il y avait que des ingénieurs, donc moi j'étais pas ingénieur, donc j'étais directeur du développement. J'étais pas capable de faire ce qu'ils faisaient, donc je faisais directeur. J'ai participé activement à la commission de normalisation, à la rédaction de cette norme, non sans peine, non sans bataille, contre certains éléments de l'industrie. J'ai rédigé ça avec un des ingénieurs d'une entreprise du domaine de l'électricité et l'électronique. C'est un livre de vulgarisation qui explique les concepts et tout ça. Ça fait partie de ma bibliographie. C'est pas une bibliographie littéraire, parce que c'est vraiment un petit livre destiné justement aux ingénieurs, aux conseillers, aux entreprises. Mais les éco-bilans sont entrés dans ma bibliographie et même dans ma poétique sous la forme d'un poème ou d'une suite de poèmes, on appellera ça comme on voudra, dont le titre est PP. PP, c'est l'abréviation de polypropylène. Au cul de votre bouteille de plastique, vous savez, il y a l'espèce de triangle là avec les flèches qui indiquent le recyclage. Et au centre de ce triangle, il y a PP ou parfois simplement un nombre 5. 5, c'est le chiffre, c'est le nombre qui désigne le polypropylène. Et il y a d'autres matières plastiques comme le PVC, le polyéthylène basse densité, etc., etc. Donc, PP. Ces poèmes, ils suivent le cycle de vie du polypropylène. Et j'aurais jamais pu écrire ce poème si j'avais pas bossé à Ecobilan. Et d'ailleurs, ce poème est dédié à Philippe Osset et à tous les mes camarades d'Ecobilan. Je leur rends hommage. Ce travail d'ingénierie est entré dans la littérature, dans la poétique. Il a créé une forme poétique. C'est-à-dire que cette suite de poèmes est circulaire, cyclique. Il suit le cycle de vie. Si bien que on peut lire cette séquence en commençant par n'importe quelle étape. Après ça, il faut simplement suivre, pas n'importe quel ordre, mais celui des transformations progressives, étape par étape, de la matière, y compris sa transformation en énergie, dans un incinérateur, puisque c'est là que finissent beaucoup de bouteilles en plastique, ou d'objets en polypropylène. Mais dans ce poème, il y a aussi des petites fleurs et des petits oiseaux. C'était publié par Lanskin dans Kinodismo, c'est la deuxième partie de Kinodismo.
Et nous en parlions dans le premier volet de notre émission, d'ailleurs, donc vous pouvez vous référer à l'émission précédente. Et vous n'aurez pas manqué de remarquer, chers auditeurs, que le plastique mène à tout, y compris à la poésie. Je vous propose à présent d'écouter un extrait de « Changeons d'espace et de temps », un texte de vous, Laurent Grisel, qui se trouve avoir été l'objet de la réalisation d'un DVD pour le label « Vouir ». Le texte sera dit par vous, Laurent Grisel, et par Walisch. La mise en son et en image est de Walisch. Et bien entendu, nous n'aurons que le son, puisque nous sommes à la radio. L'extrait que nous allons écouter s'intitule « Au neuf ».
Au neuf. Au neuf. Au neuf. Au neuf. Au neuf. Musique. Un magma qui n'est pas indifférent. Des débris qui ne sont pas n'importe quoi. Du bruit qui n'est plus le bruit. La foule qui n'est jamais la foule. Mais l'événement certain d'exister. un chant en train de se former. Les dissemblables aux semblables s'accordent, coopèrent, s'arrangent entre eux. Le 5 est engendré par les 4. Il est ce qui les regarde, sans arrêt. Et parce que c'est ainsi, un écoulement y plonger, à n'importe quel moment. Se noyer, interrompre, surnager en avalant de l'eau, se défendre, bafouiller, laisser rouler. Métamorphose dans le bain de fond, se transformer en poisson, eau étendue, longtemps vibrante, avancer, chanter, parce que c'est ma chance. Et la ligne de chant, maintenant, vers l'autre fois, vers le jamais, vers ce qui ne fut plus et sera ce qu'en ferons nous, ce qui, dans sa mort, se tait. Les nuances. Les nuances sont vitales. Allez, on recommence.
Proposition. On va d'ici, d'ici bas. On s'en va. On soulève le plafond. On le laisse s'élever, partir. La pièce grandit. C'est haut. Oh, c'est pas chez moi, non. Pas moi qui grandis. On ne serait plus absent. Ici, maintenant, s'attarde, s'étale, change d'allure, indéfiniment grande. Accueille l'instant venu de loin, sonnant longtemps. Ce que chacun a vu, l'autre le voit et plusieurs fois, de plusieurs côtés en même temps. L'accord se fait, se recompose en dehors de nous. Coïncidence produite à tout moment. Reprise du passé, aller au futur, alignement exact dans toutes les dimensions. Bulles, grains, foisonnement, cela.
On y va ensemble, excité, drôlé, on rigole d'avance, on s'y croirait. La mer n'est pas agitée, les vents ne sont pas contraires, la berge n'est pas brusque, les pieds ne sont pas mouillés, comme dans un rêve. Sauf qu'on se parle et on se comprend. J'entends distinct les voix, toi aussi les entends, nous tous les entendons. Allons.
En s'éloignant de l'Apocalypse, Albrecht Dürer, 1497. Les quatre cavaliers, arc, épée, trident, balance, rendent justice au galop. Les pierres ne bougent pas.
Vous venez d'entendre un extrait de « Changeons d'espace et de temps », un texte de mon invité Laurent Grisel, enregistré, mis en musique et en image par Walisch, et c'est une réalisation du label Vouir. Malheureusement, le temps à la radio n'est pas extensible, et donc il nous faut rendre l'antenne. Il me reste à vous remercier chaleureusement, infiniment, d'avoir répondu à mes questions, Laurent Grisel. Je suis certaine que les auditeurs auront apprécié votre franchise et qu'ils auront quelques sujets de réflexion sur lesquels se pencher, s'arrêter.
Merci.
C'était D'assonances en dissonance. Je vous retrouverai le mois prochain avec un nouvel invité qui, encore une fois, fera la preuve de la richesse et de la diversité, de la vitalité de la poésie aujourd'hui. Et d'ici là, chers auditeurs, portez-vous bien. Au revoir.